On est toujours dans ce thème de la parole de Dieu, de l'œuvre de la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu, peut-être le texte de ce soir, c'est Jean 17, 17, qui dit « Sanctifie-les par ta parole, pardon, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et de juste de réaliser, considérer que c'est la parole, c'est Dieu par sa parole qui nous sanctifie, qui nous met à part, qui nous fait grandir. Donc, dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, et petit à petit, on apprécie et on grandit dans cette communion, dans cette intimité, dans notre amour pour Dieu, dans notre connaissance de Dieu, de son caractère, de ses voies, de notre confiance en lui. Et c'est pour ça que quand le jour où le Seigneur nous reprendra, je veux croire qu'on aura été équipé pour partir dans la paix, pour partir dans la confiance, pour partir dans le repos, parce qu'on sait que Dieu a été fidèle dans toutes nos difficultés, nos hauts, nos bas, et il le sera encore jusqu'à la fin. Donc, psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc c'est la parole de Dieu qui nous illumine par le Saint-Esprit, elle nous donne de l'intelligence pour comprendre notre vie, notre monde, nos défis, nos décisions, l'importance de nos décisions. Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui, en tout cas l'homme naturel, l'homme charnel, il vit sa vie selon sa volonté. Et nous avons des moyens matériels pour, en Europe, vivre notre vie selon notre volonté. Et chacun va dans sa direction, dans ses désirs, dans ses passions, dans ses envies, dans ce qu'il pense être le bon chemin ou l'idée qu'il a selon sa volonté. Et nous, Dieu nous donne de l'intelligence pour comprendre quelle est sa volonté. Et que nous choisissions librement de nous engager à sa suite. Et le texte qu'on va lire aussi, c'est dans Matthieu chapitre 12, les derniers versets de ce chapitre. Chapitre 12, c'est un chapitre charnière dans l'évangile de Matthieu, parce qu'à partir de ce moment-là, Jésus est vraiment... C'est dans ce chapitre que les scribes et les pharisiens vont attribuer à Jésus de faire des miracles par Belzébul. Donc ils rejettent le Messie, ils rejettent la démonstration qu'il est le Messie. Donc à partir de ce moment-là, Jésus va se concentrer davantage sur ses disciples, l'enseignement des disciples, même s'il le faisait dès à présent. Mais là, il annonçait le royaume à Israël qui est en train de le rejeter et de rejeter le Messie. Et donc, au chapitre 12, verset 46, donc Jésus vient d'être rejeté par les scribes et tout ça, et les pharisiens, verset 46, « Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Là, quand on parle de ses frères, c'est ses demi-frères, d'accord ? C'est les frères avec qui il a grandi, à Nazareth. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille d'Israël vient de rejeter Jésus, la famille naturelle, le royaume pour lequel il était venu, bon, il le rejette. Sa famille naturelle, je pense que sa mère, elle croyait qu'il était le Messie, mais ses frères, on voit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, les premiers versets jusqu'au verset 5, ils ne croyaient pas vraiment qu'il était le Messie. Et donc, il encourage à descendre à Jérusalem, à faire des miracles devant tout le monde, pour que vraiment... Mais comme ils attendaient un Messie triomphant, un Messie guerrier, un Messie avec une épée qui allait tuer tous les ennemis, ils ont du mal à reconnaître et à accepter que que Jésus est le Messie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous, vous savez, on utilise toujours les moyens naturels pour avoir des privilèges, d'accord, du piston. Hein, je veux dire, on haït, on déteste cette idée de piston, mais dès qu'on peut en faire fonctionner quelqu'un qu'on connaît, qui est bien placé, un ami, un membre de famille, on le fait fonctionner pour un travail, pour entrer dans une école, pour avoir tel document, ou ceci ou cela, enfin voilà. Et là, c'est comme la famille de Jésus arrive, et c'est quand même sa famille, donc ils peuvent avoir accès à Jésus, c'est sa famille. Et c'est pas que Jésus est en train de dénigrer le fait d'honorer son père et sa mère, puisque ça fait partie de ses enseignements. Et d'ailleurs, il prendra soin de sa mère, il la confiera à Jean, l'apôtre Jean, sur la croix. Il demandera à Jean de s'occuper de sa mère. Et donc on voit qu'il n'est pas en train de rejeter sa famille naturelle, mais il est en train de montrer cette nouvelle famille qui est en train de se préparer. Cette famille à laquelle il invite quiconque. Car quiconque, ce n'est pas être israélite. Et c'est une famille spirituelle qui est la vraie famille de Dieu. C'est l'Église, c'est le corps de Christ, qui est réservé à ceux qui, pas simplement entendent et écoutent, mais ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ceux qui rentrent et acceptent de se soumettre à la volonté du Seigneur. Et donc cette invitation, elle est offerte à ceux qui veulent. Et c'est la condition, en fait, pour entrer dans la famille de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est sauvé par les œuvres, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on est sauvé et quand on connaît le Seigneur, on a envie de le suivre. On a envie de marcher avec lui. On a envie de rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, un autre verset que j'aimerais vous communiquer, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1. Ah, on va lire à partir du verset 22. Il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ça, c'est le lien, les liens que Dieu veut tisser dans sa famille et qui se réalise parce qu'on se soumet à la vérité, à la parole de Dieu. On laisse la parole de Dieu éclairer notre intelligence, éclairer notre cadre de référence, nourrir notre cadre de référence, parce que sinon notre cadre de référence, il est nourri de quoi ? De notre expérience, de notre culture, de notre éducation, de nos idées, de nos petites conclusions à notre niveau, de ce qu'est la vie. Et là, Dieu nous propose d'avoir un cadre de référence qui est son cadre de référence, qui est éternel. Hein, on sait que la parole de Dieu, elle demeurera éternellement. La terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu demeure. Elle demeure. Et c'est ce qu'on va voir au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, c'est ça qui fait que nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Nous avons été régénérés, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été régénérés, on a de nouveaux gènes, on a un nouveau cœur, on a reçu le Saint-Esprit, on a un nouveau nom, on est une nouvelle création. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et quelle est cette semence ? Par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu. Et la parole vivante, c'est pas le mot bios qui est utilisé, la vie naturelle, par exemple de l'animal ou de la chair. C'est le mot zao, qui a donné zoé, la vie éternelle, d'accord ? C'est cette vie supérieure, cette vie qui vient de Dieu, par cette semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Et elle est permanente, elle demeure, c'est le mot méno, hein, qui est utilisé dans Jean chapitre 15, et qui parle par rapport à un lieu, c'est de rester dans un même lieu, mais par rapport au temps, ici c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'à sa demeure tout le temps en fait. Ça ne part jamais. C'est-à-dire, la parole de Dieu, quand elle est dans nos cœurs, quand elle a pris la place dans nos cœurs, elle est dans notre cadre de référence, parce qu'on a mélangé la foi à ce qu'on a entendu, parce qu'on a cru qu'elle est la vérité, et qu'elle est bonne. Elle est bonne, elle est juste, elle est honnête, elle est digne de confiance et on la sert dans nos cœurs. Et je vais vous donner un exemple de comment la parole de Dieu transforme, nous fait passer, en fait, amène une transformation dans notre conduite et dans notre comportement, qui n'est pas une conformité à un modèle, mais qui est une transformation par l'intérieur, par cette semence incorruptible, qui a illuminé nos cœurs et qui œuvre en nous. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on croit que cette parole, elle est capable, c'est une parole de grâce qui nous offre une place toujours à la table, comme on vient de l'attendre, l'entendre, et une intimité. Et c'est cette relation d'intimité avec Dieu qui va éclairer nos relations les uns avec les autres, notre relation avec nous-mêmes, qui va nous donner de la valeur, qui va construire notre identité et qui va nous permettre d'avancer dans cette vie en marchant comme des fils et des filles de roi que nous sommes. Avec une dignité, avec une honnêteté, avec une intégrité, avec un honneur, avec une droiture, avec... Il ne faut pas dire qu'on est toujours parfait, mais ça veut dire qu'on suit celui qui est parfait. Et on avance et on grandit en étant sur son chemin, en choisissant de faire sa volonté. Parce que lorsqu'on n'a pas cette semence-là, si on n'a que la semence naturelle, si on n'a que les raisons, la raison humaine intelligente, vous savez, l'homme aujourd'hui s'enorgueillit de tout ce qu'il est capable de faire. Et c'est vrai. Je dois reconnaître que l'homme est capable de faire beaucoup de choses merveilleuses. Hein. Et j'étais chez le dentiste dernièrement, encore ce matin. Ben, merci Seigneur pour la technologie, merci Seigneur pour l'intelligence que tu as donnée à ces gens, les capacités intellectuelles pour faire le travail qu'ils font et pour nous soigner. Mais je reconnais qu'on a fait des progrès extraordinaires. Mais tout ça, ça reste quand même limité à ce qui se passe sous le soleil, sur la terre. Oui, on vit un peu plus confortablement parce qu'on est mieux soigné, par exemple, mais on meurt quand même toujours. Donc, sur la terre, on a fait des progrès, mais le problème, c'est que la fin, c'est toujours la même. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dira, vanité des vanités, tout est vanité. Sous le soleil, tout est vanité. Et ça veut dire, tout ça pour dire que toute cette intelligence, tous ces raisonnements, toute cette connaissance, en fait, tout ça, peut-être ça peut nous aider à vivre un peu mieux, mais ça ne répond pas aux vraies questions. De qui je suis, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je veux dire, avec toute notre connaissance, on n'a toujours pas répondu à ces questions. Ou les réponses qu'on nous donne, on peut peut-être les questionner. Je veux dire qu'on est juste un accident, parce que c'est ce que ce monde pense aujourd'hui, hein. On est juste un accident. Ça ne donne pas beaucoup de valeur. Et ça ne donne pas surtout de perspectives après la mort. Il n'y en a pas. Donc, tout ça pour dire que c'est pour contraster entre ce que l'homme pense et peut faire et la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Et qui est capable de créer en nous, de nourrir en nous cette vie éternelle. D'accord ? De voir qu'il y a un contraste et que nous avons le privilège de pouvoir être à l'écoute de cette parole. Alors, la fin de 1 Pierre chapitre 1, après au verset 24, il est dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Vous savez, une herbe, ça ne dure pas longtemps. Hein. Ça dure un printemps, et après c'est coupé, c'est fini, c'est terminé. Mais notre vie, c'est ça sur la terre. Alors, peut-être c'était une très jolie fleur, avec un grand parfum, avec tout ce que vous voulez. Peut-être avec tout le monde la regarde et c'est la gloire et c'est tout ce que tu veux, mais ça ne dure pas. C'est notre vie sur cette terre. Nos pensées ne vont pas plus loin que ça. N'est-ce pas ? Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est dit qu'on a été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu, là, la parole, le mot parole en grec, c'est le mot Logos. Mais dans le dernier verset que je viens de lire, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, la parole du Seigneur demeure éternellement, là c'est le mot Rhéma. Donc c'est à la fois le Logos, Dieu a parlé, et à la fois Dieu continue de parler, de s'adresser personnellement par le Saint-Esprit à ses enfants. Et c'est cette parole, c'est ce Logos-là dont on se nourrit qui devient Réma quand, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu œuvre au profond de notre âme. Parce que nous lui laissons l'accès, puisque nous sommes toujours libres. Alors, regardons un exemple. J'ai noté ça, et puis on verra ce que ça va donner. Lorsque je vis dans la réalité de mes pensées humaines, ben, je vais être confronté à mes limites, à mes craintes. Peut-être que dans certains domaines, je peux être très fort. On excelle dans un métier, en mathématiques, on peut exceller en sport, on peut exceller dans des tas de domaines, peut-être. Et je vais peut-être même me croire que je suis maître de ma vie, hein, sans réaliser qu'en fait, je suis toujours prisonnier de la crainte des hommes, du regard des autres. Notamment, les jeunes sont... On est en construction, donc l'approbation des autres, des fois, on est prêt à, juste pour être accepté par le groupe, à faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est cool de fumer, ben on va fumer. Parce que c'est cool de ceci, on va faire cela. Parce qu'il faut s'habiller. Alors, les modes, c'est rigolo, hein. Parce que ça vient, ça passe, puis ça revient. Puis un truc, voilà, tu te dis, mais pourquoi ? On va être original, mais on est tous habillés pareil. Enfin, voilà, c'est très étrange. Mais voilà, on est comme ça. Donc, on est toujours prisonnier de la crainte des hommes et de la crainte de la mort, en fait. Inconsciemment. Parce qu'on ne pense pas tout le temps à la mort. En fait, les gens ne veulent pas penser à la mort, mais elle est là quand même. Alors, imaginez qu'un jour, au travail, j'ai un problème relationnel avec un collègue. Et donc, voilà, il a fait une erreur, ou peut-être, peu importe, en tout cas, on ne s'entend pas. On n'est pas d'accord avec sa façon de faire, avec peut-être c'est un chef, peut-être, peu importe. Mais nous, on a raison, forcément. Donc on peut vite être juste propre et dire « moi j'ai raison, lui il a tort, c'est un imbécile, il comprend rien à rien, voilà. Bon. » La tension monte, peut-être même la colère commence à germer, on arrête de se parler, on finit même par se détester. C'est juste la réalité du monde dans lequel on vit, hein. Et puis même après, on commence à parler mal de l'autre. En fait, on est vite prisonnier de nos limites, de nous-mêmes, du péché. Autant du péché de l'autre, peut-être c'est sa faute, mais du mien aussi, de ma façon dont je réagis vis-à-vis de ça, et peut-être des implications que ça a sur mon quotidien. Et si on pense avec la loi chrétienne, la règle de vie chrétienne, eh bien, j'aimerais vous dire qu'en fait, ça va nous condamner, nous culpabiliser encore plus, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas du tout. On en est même très loin, hein, de pardonner ou de chercher la réconciliation. Et en fait, ce verset, vous connaissez, dans 1 Corinthiens 15, 56, il dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Ce n'est pas parce qu'on connaît la chose qu'on ne pêche plus. En fait, la loi a été donnée juste pour qu'on sache qu'on était en train de pécher, qu'on ne savait pas avant. Mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'il ne faut pas le faire qu'on ne le fait plus. Sinon, on ne pécherait plus, n'est-ce pas ? En fait, je suis incapable. Et même, j'aimerais vous dire, je n'ai même pas envie d'arranger la chose avec la personne. Imaginez que maintenant, j'entends la parole de grâce. Et comment ça... je commence à comprendre que je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais être, peut-être. Mais que j'ai un Dieu qui me fait grâce, un Dieu qui me pardonne, un Dieu qui m'accepte, un Dieu qui use de patience, de tendresse, qui me relève encore et encore, qui m'invite à sa table, à sa communion, et qui... qui m'aime et qui ne me fait pas de reproches. Puis là, je commence à continuer la parole de Dieu, et puis je me rends compte que Dieu, il est capable de me faire justice, et même de défendre mes droits, encore mieux que moi-même. Vous savez qu'il n'y a pas meilleur avocat que Jésus-Christ. Hein ? Il a eu le barreau haut la main. Hein ? Il est... Et vous rappelez cette histoire de la veuve là, qui demandait au juge unique de lui faire justice. C'est Dieu qui utilise cet exemple pour nous dire, mais demandez à votre Père qui vous fera justice. Hein? Alors, si là, c'était un exemple comme quoi, le même, au bout d'un moment, le gars qui est unique, il va quand même lui faire justice. Alors, notre Père qui nous aime, vous ne pensez pas bien qu'il va nous faire justice aussi. Après, je continue la parole de Dieu, puis là, je découvre que même Dieu fait tout concourir pour mon bien. Romains 8, 28. Ah, cette situation-là, qui m'énerve, qui est comme une écharde dans ma chair, qui me met à défaut, qui dévoile mes limites, mes capacités, qui me frustre, parce qu'après on s'énerve de s'énerver, enfin vous comprenez comment ça marche, hein, de marcher naturellement, et voilà. Et puis là on entend qu'il est même capable de transformer le mal en bien. Vous savez, les épreuves de la vie, les situations, les circonstances dont on n'est pas maître, hein, dont on est quelquefois juste les victimes ou les spectateurs, ou on est plus ou moins affecté par les circonstances extérieures. Mais vous connaissez ce verset dans le livre de Genèse qui conclut le dernier chapitre. Il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà, peut-être, et on sait qu'on est dans une bataille spirituelle, qu'il y en a un qui veut nous faire du mal et qui voudrait nous décourager, qui voudrait nous arrêter, qui voudrait nous enlever de la table, nous frustrer dans notre colère, dans nos blessures, dans tout ça. Mais quand on pense comme ça, ben, on dit « Attends, mais peut-être que cette situation, Dieu est en train de travailler dans ma vie. » Et Dieu la permet pour mon bien. Même si aujourd'hui, je ne vois pas le bien que ça peut produire. C'est plutôt... C'est comme un grain de sable ou un caillou dans la chaussure ou un grain de sable dans une huître. Hein. C'est irritant. C'est déplaisant. Et Dieu est en train de faire un travail. Là. On l'accepte par la foi. On ne comprend pas. Et puis, on continue de recevoir la vérité, la grâce pour nous. Personne. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais attends, mais la grâce, elle n'est pas que pour moi. Jésus n'est pas venu faire grâce qu'à Jean Cartier sur la terre. Il n'est pas mort que pour Jean Cartier sur la terre. Et il est mort pour tous les hommes, pour toutes les femmes, et même pour ceux que j'aime pas. Même pour ceux que je déteste, même pour ceux qui m'énervent. Même pour ceux qui m'ennuient, qui sont comme un caillou dans ma chaussure. Et souvent, ceux qu'on pense être, en fait, ceux qu'on dit être nos ennemis, on pense qu'ils sont nos ennemis, mais en réalité, c'est juste quelques circonstances qui nous ont dérangés. Voilà, mais c'est. Et Jésus nous dit là, mais aimez vos ennemis, parce que aimer vos amis, c'est facile, tout le monde le fait. Mais aimer celui qui n'est pas aimable. Mais ça, moi, je ne peux pas le faire, Seigneur. Je ne peux pas pardonner, je ne peux pas accepter, je ne peux pas passer outre, n'est-ce pas? Et pourtant, Matthieu 5, 44, c'est bien ce qu'il nous dit, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Ah non, attends, mais moi, ce n'est pas mon plan. Moi, j'essaie de casser celui qui me casse. De le démonter, de le mettre de côté, de le faire... voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas qu'on va aller tout de suite sauter dans les bras de celui qui nous insupporte. On est d'accord. Et on ne fait pas non plus de compromis avec la vérité, avec nos convictions. Mais peut-être que je vais commencer à prier pour la situation. Sans me culpabiliser. Je vais dire, ok Seigneur, là, je n'y arrive pas dans cette situation. Mes émotions, mes raisonnements, mais, voilà, je suis à côté de la plaque, je suis d'accord. Et avec transparence, on se met devant Dieu, on dit « Ok, j'ai besoin de ton aide en fait. Je suis incapable d'aimer cette personne, je suis incapable de bénir cette personne, je suis incapable de faire du bien à cette personne. » Et on réalise donc notre petitesse, notre susceptibilité, notre fragilité, notre orgueil. Peut-être que c'est des choses que cette situation, on ne prendrait pas conscience de ça. Donc Dieu est en train de travailler dans notre vie à travers ça. Et puis, Dieu, ben, il ne nous condamne pas. Il me dit, allez, donne-moi tout ça. Donne-moi ton cœur. Et quand Dieu nous dit, donne-moi ton cœur, le cœur, voilà, donne-moi ton vieux cœur, celui qui n'arrive pas à marcher droit. Et moi, je vais te donner un nouveau cœur à la place. Proverbe 23, 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Et là, je finis par m'humilier devant Dieu, je reconnais mes torts et je confesse mon péché, voilà, devant lui. C'est pas mal, ça. C'est un beau travail de Dieu dans ma vie à travers cette épreuve. Et cette humilité, ben, ça précède la gloire, hein. Proverbe 15, 33. Je continue de prier pour la situation, je demande l'aide de Dieu, parce que je suis bien conscient que je ne peux rien faire sans lui. Et puis, finalement, je vais me trouver à prier pour celui qui m'agace et qui peut-être met voilà, il me fatigue naturellement dans la situation et les circonstances. Et puis, là, peut-être, imaginez qu'une circonstance... Et c'est Dieu qui est le champion, enfin le maître des circonstances. Et il y a une circonstance où, voilà, peut-être il faut dire quelque chose sur la personne. Donc, avant, j'ai choisi de pardonner dans mon cœur. Alors, peut-être que dans la relation, ce n'est pas encore efficace et effectif, mais déjà, je parle plus mal de la personne. Et même peut-être, je commence à regarder la personne avec les yeux de Dieu et de voir qu'il a besoin en fait, de rencontrer la grâce, de trouver le Seigneur, lui aussi. Et puis, au lieu de calomnier, comme c'est facile de faire, hein, dans son dos, d'abord, je dis rien. Déjà, de rien dire, c'est une belle étape. C'est un travail de Dieu dans notre vie. C'est un travail de la parole permanente et vivante de Dieu dans notre vie. De se taire, de ne pas réagir, de ne pas répondre. Jésus, il n'a pas ouvert la bouche. Hein, comme un agneau muet qu'on mène à la boucherie, là, il s'est tu, se taire, garder sa langue. Et puis, vous savez, quand on a un problème avec quelqu'un, eh bien, notre regard sur lui, s'il n'est pas éclairé par le regard de Dieu et la grâce de Dieu, c'est que cette personne a toutes les tares du monde. Elle ne peut rien, elle ne peut pas faire une seule chose de bien, ce qui n'est pas la vérité. Peut-être des domaines où elle ne fait pas ce qu'il faudrait et qu'elle n'agit pas correctement, certainement. Mais elle n'a pas toutes les tares. D'accord ? Et imaginez que la situation donc arrive où j'ai accepté de penser avec Dieu, de mettre ma confiance en lui, dans sa parole, dans cette semence incorruptible en moi, qui m'a franchi de ma réalité et qui permet de transcender mes émotions et ma façon d'être. En fait, c'est Christ qui vit en moi. Et la situation m'est donnée où peut-être on me demande mon avis sur la personne. Et au lieu de casser la personne, au lieu de descendre la personne, au lieu de critiquer la personne, au lieu de calomnier la personne comme l'homme naturel le ferait facilement pour se justifier et avoir raison, et essayer d'avoir raison, eh bien on dit des bonnes choses sur la personne. Et on édifie la personne. Et imaginez si cette personne fait des choses avec une mauvaise intention quand elle entend notre réaction, comment on parle d'elle. Vous pensez pas que ça peut faire un travail dans sa vie? En tout cas, c'est l'objectif. Après, chacun vit devant Dieu. Et chacun aura des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas changer la personne, mais on peut l'aimer, on peut lui pardonner, on peut parler bien de la personne. On peut parler avec le regard de Dieu sur la personne. Et ça, c'était juste une illustration pour vous montrer comment maintenant Christ vit en moi, comment la parole permanente de Dieu a changé mon regard, a transformé même mes émotions. Parce que c'est une transformation de la pensée, en fait. Et on est illuminé sur la situation. Et on a le regard de Dieu sur la situation. En fait, la parole de Dieu amène des éléments que moi, je n'ai pas, parce qu'ils viennent d'en haut. Elle amène une perspective que moi, je n'ai pas. On ne voit pas que cette situation, en fait, c'est dans le plan de Dieu pour notre bien et pour la gloire de Dieu. On ne le voit pas, ça, mais la parole de Dieu va nous fortifier avec ses promesses, n'est-ce pas? Elle va nous donner sa présence, son secours, sa vision des choses. On comprend aussi qu'on n'est pas le centre du monde. Parce que quand il y a un problème, on est le centre du monde. D'accord? On n'est pas le centre du monde, c'est Christ le centre. D'accord? Et c'est sa gloire qui est en jeu. et elle va être manifestée maintenant à travers ma vie et mon attitude, parce que la parole de Dieu est à l'œuvre. Et je peux vous dire que là, c'est plus la justice de l'homme qui va. Parce que la justice des hommes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse les autres. La justice de Dieu, elle vient pour sauver les hommes. Elle vient pour édifier les autres, pour relever, pour donner de l'espérance. Donc, ça m'aide à sortir de mon raisonnement circulaire, vengeur, qui ne fait en fait que rajouter du bois au feu, de la haine au problème. Et on commence à expérimenter Galates 2:20. On vit toujours ici-bas, on a toujours les mêmes problèmes, mais la parole de Dieu nous aide à les vivre différemment, ces problèmes. Et à répondre différemment. Et au lieu de se laisser mener par le bout du nez, par les émotions et les pensées du malin et la haine et les représailles, c'est l'amour qui nous remplit. L'amour pour Dieu, l'amour pour même pour ceux qui ne sont pas aimables avec nous. Et ça, c'est que Dieu qui peut faire ça. On sait qui on est, on sait notre valeur, on n'a pas besoin d'avoir raison. Ce qu'on veut, c'est que Dieu soit manifesté. Et c'est là que la transformation s'opère. Et que notre comportement change. Et on n'a pas adopté un comportement qu'il faut adopter de chrétien, légaliste. D'accord ? Un sourire faux. Non. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et donc, nous, notre seule part, c'est quoi ? C'est d'écouter. Et de laisser la parole de Dieu illuminer notre intelligence, transformer nos cœurs, notre comportement. 1 Pierre 1,17, et je terminerai avec ça. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Ouais, non, mais moi, je connaissais bien le pasteur Jean, donc Jésus, tu comprends. Moi, j'étais un proche de pasteur Stevens. Moi, je suis un proche du pape. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? Est-ce que tu l'as écouté au moins? Est-ce que tu l'as laissé t'amener à rentrer dans ma volonté pour toi? C'est tout. Et là, on ne va pas dire oui, mais tu comprends, moi je connais quelqu'un. Alors, je suis proche de Macron, donc quand même. Puis moi j'ai fait des choses. Non. Est-ce que tu as écouté ma parole? Est-ce que tu as accepté? Et la fin du verset dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Voilà. Crainte la parole de Dieu. La laisser agir dans ma vie. Ce n'est pas me changer moi, mais c'est de croire la parole de Dieu. Et de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Et dans ma vie, et à travers ma vie. Que Dieu vous bénisse.